Radio Django. Culture.
18h40, on passe à Cultiver Lausanne. Et ce soir, justement, dans Cultiver Lausanne, on parle histoire. L'histoire des colonies, de la traite négrière et de l'esclavage. Un rapport qui semble un petit peu distant à la Suisse et à Lausanne, Linda.
Oui, Fabien, on serait tenté de croire que la Suisse, qui n'a jamais possédé de colonies, a les mains toutes propres s'agissant de cette période sombre de l'histoire. Alors, c'est peut-être le cas pour l'État suisse. En revanche, certains de ses citoyens ont été mêlés à cette période. Notre invité va nous raconter en quelques mots le rôle que des citoyens suisses ont pu jouer dans le commerce négrier et dans l'esclavage entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec un focus sur un récit en particulier.
Et cet invité ce soir, c'est Olivier Pavillon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes journaliste, historien de formation. Vous avez dirigé également le musée historique de Lausanne durant 15 années. Vous avez également été responsable du cabinet des manuscrits de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Vous êtes également auteur à vos heures. Et vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur des familles suisses mêlées au trafic d'esclaves. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce sujet, Olivier Pavillon ?
Eh bien, c'est que, comme on vient de le dire, c'est un sujet qui n'est pas tellement présent dans l'histoire suisse. Bon, disons que maintenant, depuis une quinzaine d'années, on en sait un peu plus, hein. Mais il y a encore une quinzaine d'années, c'est un sujet complètement tabou, on n'en parlait pas. Et alors j'avais, par hasard, lu, il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ans, dans une histoire sur la banque en Suisse, on parlait à un endroit de bateaux qui partaient de Marseille pour faire la traite négrière et qui portaient des titres tels que Ville de Lausanne et Pays de Vaud. Je disais, tiens, bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'était resté dans ma mémoire, et puis bon, ma vie professionnelle ne m'a pas tellement permis de faire de la recherche historique. Et à la retraite, je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser.
Donc c'est une retraite qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur un côté historique qui vous a pas forcément plus branché depuis le début.
C'est-à-dire que oui, je dois dire que si on est un peu sensible aux injustices du monde, on est quand même aussi sensible à ce qui s'est passé comme injustice dans l'histoire. Et diable, si c'en est une, ça.
Et justement, Olivier Pavillon, à travers vos différents ouvrages, on apprend que plusieurs familles suisses, voire suisses romandes, ont été actives dans le trafic négrier. Qui sont ces familles ?
Alors, d'abord, je veux dire que il existe en fait maintenant depuis à peu près 8-9 ans un petit bouquin qui s'appelle « La Suisse et l'esclavage » qui est apparu aux éditions Antipode, publié par trois chercheurs lausannois, genevois, chercheurs et chercheuses, qui est excellent. Hein, donc on peut là trouver pas mal de choses. Alors, quels sont ces gens ? Il y a de tout. Il y a des marchands, il y a des commerçants, il y a des industriels qui fabriquent par exemple des indiennes. Les indiennes, c'était des tissus de coton, de couleur, qui était vendu en Suisse certainement aussi, mais surtout dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire en Afrique. Et ça servait souvent d'échange contre des esclaves. Mmh. Donc il y a toutes sortes d'industriels, en particulier dans le canton de Neuchâtel, mais dans le canton de Glaris aussi, qui se sont établis industriels d'indiennes, et puis qui cherchaient des débouchés. Alors ils ont établi des comptoirs, par exemple à Nantes, ou à Marseille, ou à Lille, ou à Bordeaux, là où, d'où partaient justement les navires négriers, avec les cargaisons qu'ils allaient échanger contre des esclaves. Mais il y avait également des mercenaires qui ont été soldats ou officiers dans des troupes coloniales chargées de maintenir l'ordre dans les territoires conquis. Il y avait des pasteurs et puis il y avait des aventuriers. Mmh. Voilà.
Votre prochain ouvrage à paraître est intitulé « Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'Île-de-France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840 ». Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage à paraître ? De quoi est-ce qu'il parle ?
Alors bon, le champ est effectivement chronologiquement assez vaste parce qu'on a eu la chance de retrouver en fait la correspondance qui est aujourd'hui conservée aux archives cantonales vaudoises d'un membre d'une famille qui s'appelle Larguier des qui est d'origine huguenote. On a d'ailleurs toute l'histoire de la période huguenote quand ils sont venus à Lausanne. À Lausanne, le type a fait quelques actes frauduleux, il a dû fuir. Puis c'est à partir de là qu'il part, s'appelle Pierre-Frédéric Larguier des Bancelles. Il part à l'île Maurice et on a toute sa correspondance. Et également de ses descendants qui étaient à l'île Maurice jusque vers 1840. Donc on a à peu près un siècle de leur présence à l'île Maurice où ils étaient trafiquants et également planteurs.
L'île Maurice qui à l'époque s'appelait Île-de-France, hein, d'où la mention Île-de-France
exactement,
dans le titre.
Parce que c'est une île qui d'abord a été colonisée par la France, d'abord par les Hollandais, puis par les Français et enfin par les Anglais.
Et comment est-ce qu'il vous a été possible de réunir tous ces documents historiques qui ont été nécessaires à cet ouvrage ?
Alors, c'est un peu le problème pour ce genre de recherche, parce qu'en fait, vous ne trouvez rien dans les archives officielles de la Confédération suisse ou des cantons. Puisque, à part le canton de Berne, qui au XVIIIe siècle avait des actions, la Compagnie orientale des Indes, d'une manière générale, les pouvoirs publics n'ont pas participé à la colonisation, c'est clair. Alors les individus, dans la mesure où leurs correspondances ou bien leurs souvenirs ont été conservés, ben voilà, seulement il faut les trouver parce que souvent leurs correspondances qui passaient par mer étaient victimes des naufrages, des pirates, ou bien alors ensuite les familles conservant ça dans des greniers se sont dit un jour ouais, c'est du vieux papier, ça sert à rien. Donc en fait on a malheureusement peu de choses et heureusement quelques personnes ont eu sauver des correspondances, des souvenirs. C'est ça que j'ai utilisé.
En particulier pour la famille des Bancel.
En particulier pour la famille Larguier-du-Bancel, dont les archives sont aux archives cantonales. Elles ont été données par les deux derniers descendants de cette famille, dont le dernier était un professeur de l'Université de Lausanne. Et puis, il était un peu sensibilisé quand même aux archives, au rôle des archives. Il a donné ça aux archives, c'est bien. Mais par exemple, pour un autre, qui est Alfred Berthoud, qui est le Châtelois, dont je parle aussi dans le bouquin, là, c'est par hasard que les archives de la vie moderne à Neuchâtel ont reçu des papiers qui étaient destinés quasiment à la poubelle. Et là aussi c'est une correspondance d'Alfred Berthoud qui est retourné au Suriname où il possédait un plantage comme on disait et des esclaves et puis qui est là-bas pour les liquider pour vendre tout ça. Et alors il écrit à sa femme à Neuchâtel pour lui expliquer ce qui se passe. Voilà les éléments qu'on peut avoir.
Si on en revient à la famille des Bancel qui occupe le premier volet de votre ouvrage, on trouve l'extrait d'une lettre que Pierre-Frédéric Larguier des Bancel, que vous avez évoqué tout à l'heure, écrit à sa mère en 1787, où il est dit « Avant-hier, nous avons obtenu la permission d'aller faire à Madagascar la traite des Noirs, qui, dans le courant de la saison, peut nous donner un gros bénéfice si nous n'éprouvons pas de malheur. » Fin de citation. Donc, en parallèle du commerce de marchandises, il se lance aussi dans ce commerce-là.
Voilà. Donc, tous ces trafiquants n'étaient pas nécessairement des négriers. Ils faisaient le trafic de toutes sortes de produits. Ils allaient, par exemple, acheter des produits en France, à Marseille, et puis ils les revendaient à l'île Maurice ou bien à l'île de France, en l'occurrence, ou bien à La Réunion, voire à Madagascar, ou bien même sur les côtes de l'Inde. Hein. C'était parfois des voyages de nombreux mois. Mais en l'occurrence, ils vont aller à Madagascar et ils vont faire de la traite négrière. Madagascar, c'est assez proche de l'île Maurice. C'est une terre qui fournit beaucoup de riz aux habitants, aux colons de l'île Maurice, mais aussi des esclaves. Encore que la principale source d'esclaves à l'époque dans cette région-là, c'est le Mozambique. Voilà. Mais lui va d'abord trafiquer avec Madagascar. Il trafiquera aussi avec le Mozambique. Alors, l'expédition dont on parle, il en espère beaucoup. Il va même racheter des locaux à Port-Louis, à l'île Maurice, pour stocker, entre guillemets, les esclaves qu'il va acheter à Madagascar. En réalité, tout va très mal se passer. Il va faire naufrage, le capitaine va mourir, le bateau va devoir faire escale à La Réunion avant de revenir à l'île Maurice. Et en définitive, il reviendra avec très très peu d'esclaves parce que la plupart se sont révoltés. Et ça, c'est une chose qui se produit très souvent, des révoltes d'esclaves. Et là, ça a été une révolte importante.
En particulier sur les navires.
Oui, oui, oui. Alors, ils se révoltaient le plus souvent sur les navires. Il y en a à plusieurs reprises. Des navires ont été pris ensuite en charge par les esclaves révoltés. Parfois, ils savaient à peu près naviguer. D'autres fois, ils ne savaient pas. Et puis, ils naviguaient un petit peu
À vue.
À vue, et puis ça s'est traduit par des catastrophes.
D'ailleurs, petit à petit, les mouvements abolitionnistes gagnent du terrain et parviennent finalement à l'Abolition Bill le 1er août 1833. Il y a une protagoniste de la famille Larguier qui se plaint des esclaves à cette période. Elle dit « Depuis qu'on leur a tout accordé, on peut bien dire que mieux ils sont traités, moins ils valent. Je voudrais bien qu'on envoyât dans les colonies quelques-uns de vos philanthropes négrophiles et leur donner une centaine de noirs et de la terre pour tout revenu. » Fin de citation.
Oui.
C'est une période décevante pour la famille Larguier.
Ben, disons que c'est assez typique de la réaction des colons. Hein. Oui. Les colons, en fait, ils se rendent bien compte qu'en 1833, la période de l'esclavage se termine. Ce qu'ils essayent, c'est d'obtenir en fait, des indemnités pour leurs esclaves libérés de la part du gouvernement anglais. Ça va être le cas. Hein. Ça va être le cas. C'est un des descendants de ces Larguier de l'île Maurice qui était préfet à Nyon, ici. Le père de ceux qui vont devenir par la suite professeurs à l'Université de Lausanne, qui va devoir, en fait, il est l'héritier, il hérite des terres, il hérite des esclaves, et c'est lui qui va devoir liquider les terres et les derniers esclaves. Mais ce qu'il faut dire précédemment à propos de Pierre Frédéric, c'est qu'il avait un fils, il l'avait fait venir sur place, et ce fils, en fait, va, au moment de la première abolition de l'esclavage, au moment où la Révolution française supprime l'esclavage,
par les
en 1791 ou 92, je ne sais plus exactement, eh bien lui, en fait, il va se mettre à la tête quasiment des jeunes colons de l'île pour repousser les représentants de la Révolution française qui viennent proclamer la abolition de l'esclavage. Il les renvoie purement et simplement en disant « Nous, ici, on va maintenir l'esclavage. » Et en fait, l'esclavage va être maintenu sur l'île Maurice.
Encore quelques années.
Ah, bah oui, pas mal de temps. Ensuite, les Anglais vont occuper l'île et puis alors, eux vont supprimer, disons, la possibilité d'acheter des esclaves, mais disons, ceux qui étaient sur l'île sont restés propriétés de leur maître et ne seront libérés que dans les années 1830-35.
Dans l'ouvrage, il est question par endroits de dégringolade financière vertigineuse. On s'en approche. D'ailleurs, ça a un lien très concret avec l'abolition. Enfin, ça signifie aussi la fin d'un certain profit. Mais il y a aussi des cyclones dévastateurs, des épidémies de choléra et une féroce concurrence entre les planteurs.
Oui, parce que disons, il y a beaucoup de Suisses, de Français, enfin d'Européens, de manière générale, qui partent là-bas. Ce sont des aventuriers. Ils espèrent faire fortune. Notre Pierre Frédéric, lui, il a essayé de faire fortune à Lausanne. Il a fait des actes un peu frauduleux. Il a dû partir en vitesse, mais il n'a pas un sou. Il a dû tout laisser à Lausanne. Donc, il espère à l'île Maurice faire sa plotte. Alors, au début, ça marche bien, ça monte. Il peut faire des différents commerces, y compris du commerce d'esclaves. Et puis ensuite, ben voilà, il y a des pirates qui s'emparent du bateau, il y a des tempêtes qui font couler des navires, il y a des révoltes d'esclaves, comme on l'a vu il y a un instant, ce qui fait que c'est vraiment en dents de scie. Mais en définitive, les Larguier ne vont pas tellement faire fortune à l'île Maurice. Et à la fin, c'est pas vraiment une fortune considérable qui va en sortir, il faut dire.
Et puis, la lignée se termine plus ou moins avec... les descendants de Pierre Frédéric, j'ai plus tout.
Oui, alors Pierre Frédéric, il a en fait un frère à Lausanne qui va devenir préfet de Nyon et qui aura deux enfants, dont les deux d'ailleurs vont être professeurs, l'un de droit et l'autre de je ne sais plus de quoi, à l'université de Lausanne, enfin d'abord à l'académie de Lausanne, c'était pas encore une université, puis ensuite à l'université de Lausanne, mais ils n'auront pas de descendants. Donc, maintenant, la famille Larguier des Bancelles, elle a disparu. Par contre, à Saint-Germain-de-Calberte, dans les Cévennes, il y a encore beaucoup de Larguier qui vivent. Hein. Et moi, j'y suis allé. C'est assez émouvant. J'ai retrouvé beaucoup de traces de mes Larguier là-bas, y compris au moment où on les a forcés à abjurer la foi protestante.
Oui.
C'était impressionnant.
De vos Larguier, vous dites, vous êtes devenu familier avec à force de les étudier.
Ah, ben oui. Vous étudiez une famille pendant à peu près, je ne sais pas, 4 ans, je suis allé à Marseille, je suis allé dans les Cévennes, je ne suis pas allé à l'île Maurice, mais j'étais en relation avec des historiens de l'île Maurice. Donc finalement, vous devenez quand même assez familier de ces gens.
Olivier Pavillon, est-ce que vous avez déjà d'autres sujets en perspective maintenant que la lignée des Bancelles est bouclée ?
Non, pas pour l'instant. Je me repose. Peut-être que ça surgira, mais non. Pour l'instant, je jouis plutôt du temps présent.
Et puisque vous continuez à faire des recherches, est-ce que si quelqu'un vous contacte demain, après-demain, après-après-demain, l'année prochaine peut-être, ouais, avec des nouvelles informations sur cette lignée des Bancelles, vous en faites quoi ?
Ah bah, d'une part, je suis toujours preneur, on peut toujours corriger des choses qu'on a dites, parce que l'histoire n'a jamais une science exacte, hein, c'est clair. Et puis d'autre part, je peux aussi communiquer ça à des jeunes qui, à l'heure actuelle, font des mémoires à l'UNI, etc. Je pense que c'est un sujet vraiment qu'on peut défricher et où il y a beaucoup de choses à trouver encore. Mmh, mmh.
Votre ouvrage, quand est-ce qu'il paraît réellement ?
Alors, début novembre, chez Antipode, ici à Lausanne. Oui. On aura ce vendredi une présentation du bouquin. Il y aura un comédien sénégalais qui va lire pendant une petite demi-heure des extraits du livre. Et puis le livre, mais il ne sera pas encore imprimé à ce moment-là. Oui. Il paraîtra, je crois, 15 jours plus tard. Et là,
à mi-novembre à peu près.
Ouais, il y aura au cinéma Bellevaux, de nouveau, je crois, une présentation. Mais ça, il faut demander à l'éditeur, je sais pas.
Ouais, ben on lui demandera, tiens, ouais, pourquoi pas. Votre prochain ouvrage, donc, Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à Lille de France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840. C'est votre livre, Olivier Pavillon. Merci beaucoup d'être passé par Radio Django ce soir.
Merci à vous.
Plein succès pour vos ouvrages et pour vos futures recherches, puisqu'il y a toujours à faire. Merci beaucoup, Olivier Pavillon. Vous êtes l'auteur et expert de cette question. Belle soirée à vous, et merci également à Linda pour la préparation de ce sujet. Un sujet et une série de détails et de liens retrouvés sur notre site www.django.fm.
Merci à vous.